de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres, le taux de guérison du COVID-19 en Indonésie est supérieur à la moyenne mondiale. Yoshihide Suga remporte le soutien du parti pour devenir premier ministre japonais. La Nouvelle-Zélande a désigné le tireur de Christchurch comme une entité terroriste. Hong Kong commence à organiser un test de masse COVID-19 pour 5 millions de volontaires. L'utilisation d'un masque est une clé avant l'existence de la vaccination de COVID-19, a déclaré le président Joko Widodo. Le vaccin rouge et blanc est produit à la mi-2021, a déclaré le président Joko Widodo. Et les visites des touristes étrangers dans le nord de Sumatra continuent d'augmenter, principalement de Malaisie. Chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le taux de guérison du COVID-19 en Indonésie est supérieur à la moyenne mondiale. Le groupe de travail pour la gestion du COVID-19 de la République d'Indonésie a révélé qu'il y avait une augmentation du nombre de cas de patients positifs au coronavirus COVID-19 décédés en Indonésie la semaine dernière. Cela a été transmis par le porte-parole du groupe de travail de COVID-19, Wiku Adhisa Smito, lors d'une conférence de presse diffusée via le compte YouTube du secrétariat présidentiel mardi 1er septembre 2020. Wiku Adhisa Smito a expliqué qu'en termes de taux de guérison, l'Indonésie est plus élevée que la moyenne mondiale.
Sedangkan jumlah kasus sembuh pada saat ini kumulatif adalah 128.057.
Pendant ce temps, le nombre cumulé de cas récupérés est de 128.057 ou 72,1%. Nous devons dire que le nombre de cas récupérés en Indonésie est supérieur au résultat mondial, à savoir 69,97%. Wiku Adhisa Smito a également indiqué que le taux de reprise en Indonésie varie d'une province à l'autre. Il a expliqué que plusieurs provinces ont un taux de guérison assez élevé. Les provinces avec le taux de guérison COVID le plus élevé étaient le Sulawesi central
avec un pourcentage de 90,87. Bangka Belitung avec 90,79% et Bali avec un taux de guérison de 85,76%. Yoshi Desuga remporte le soutien du parti pour devenir premier ministre japonais. Le principal porte-parole du gouvernement japonais, Yoshi Suga, est en pas de plus pour devenir premier ministre après le parti au pouvoir. Mardi, il est choisi comme successeur de Shinzo Abe. Suga a également obtenu le soutien de la plus grande faction du Parti libéral-démocrate, LDP. Les médias locaux ont indiqué que Yoshihide Suga est un candidat fort pour remplacer Abe, qui a soudainement annoncé sa démission pour des raisons de santé vendredi 28 août. Suga n'a pas annoncé publiquement sa candidature à la tête du LDP, mais a indiqué en privé qu'il avait l'intention de se présenter. Les médias rapportent qu'il annoncera officiellement son intention de se présenter mercredi 2 septembre. Le chef du parti deviendra presque certainement premier ministre car la majorité est à la chambre basse du Parlement. La Nouvelle-Zélande a désigné le tireur de Christchurch comme une entité terroriste. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a désigné Brenton Tarrant, l'auteur des attentats meurtriers de 2019, contre deux mosquées de Christchurch comme une entité terroriste. Tel était le communiqué de presse cité mardi par Ardern en vertu de la législation néo-zélandaise. Les avoirs d'une entité terroriste doivent être gelés pour s'assurer qu'ils ne pourront plus être utilisés pour financer le terrorisme à l'avenir. Avec ce statut, toute personne qui participe ou soutient les activités d'une entité terroriste sera réputée avoir commis une infraction pénale. Avec l'attribution du statut de tarant, le nombre de personnes que la loi néo-zélandaise considère comme une entité terroriste est passé à 20. Le 15 mars 2019, la Nouvelle-Zélande a été secouée par deux fusillades de masse à la mosquée Al-Nur et au centre islamique de Lynwood, au centre-ville de Christchurch. La fusillade a tué 51 personnes et en a blessé 50 autres. Hong Kong commence à organiser un test de masse COVID-19 pour 5 millions de volontaires. Hong Kong a lancé un programme de test de masse volontaire mardi 1er septembre dans le cadre d'une stratégie visant à briser la chaîne de propagation du coronavirus. Le programme de test a commencé à 8 heures du matin, heure locale, et les citoyens se sont dirigés vers plus de 100 centres de tests dotés de plus de 5 000 bénévoles. Plus de 500 000 volontaires sur une population totale de 7,5 millions se sont inscrits au programme de tests qui durera une semaine. Le test vise à détecter les personnes sans symptômes porteurs. Le gouvernement cible 5 millions de citoyens pour participer aux tests. Si l'intérêt public augmente, les tests seront prolongés à 2 semaines. Hong Kong a atteint le sommet de la pandémie de coronavirus début juillet. Le gouvernement a été critiqué pour les exemptions de quarantaine pour les personnes des compagnies aériennes, les chauffeurs de camions de Chine continentale et les marins sur les cargos. L'utilisation d'un masque est une clé avant l'existence de la vaccination de COVID-19, a déclaré le président Joko Widodo. Le président Joko Widodo a rappelé l'importance pour le public d'utiliser toujours des masques car ces précautions sont la clé pour contrôler la pandémie de COVID-19 avant l'existence de vaccination. Lors d'un briefing au gouverneur du palais présidentiel de Bogor, dans l'ouest de Java, mardi, le président Joko Widodo a demandé que l'importance du port des masques soit transmise en permanence au public, y compris des protocoles de santé. à savoir se laver les mains avec du savon, maintenir la distance et éviter les foules. Le président a également demandé aux gouvernements locaux d'accroître la supervision de la mise en œuvre des protocoles de santé dans la communauté. Des sanctions contre les contrevenants au protocole de santé devraient être mises en œuvre. Le président a également demandé la distribution de masques au peuple pour aider la communauté à empêcher la propagation. Le vaccin rouge et blanc est produit à la mi-2021, a déclaré le président Joko Widodo. Le président Joko Widodo a déclaré que le processus de développement du vaccin rouge et blanc à ce jour a atteint 30 à 40% et que le vaccin devrait être produit à la mi-2021. Lors d'un briefing virtuel au gouverneur du palais présidentiel de Bogor, dans l'ouest de Java, mardi, le président Joko Widodo a expliqué qu'actuellement, le consortium national développant le vaccin rouge et blanc est en train de fabriquer des semences de vaccins. Le vaccin rouge et blanc a été développé par un consortium national sur la base d'une souche virale trouvée en Indonésie. En outre, à court terme, le président Joko Widodo a révélé que l'Indonésie avait également obtenu un engagement de 20 à 30 millions de doses de vaccins à la fin de 2020. En 2021, l'Indonésie s'est également engagée à fournir jusqu'à 290 millions de doses de vaccins. Le chef de l'État a rappelé au gouverneur de rester concentré sur le contrôle de la pandémie de COVID-19 dans les régions respectives avant la vaccination. Les visites de touristes étrangers dans le nord de Sumatra continuent d'augmenter, principalement de la Malaisie. Le nombre de touristes étrangers au nord de Sumatra continue d'augmenter à l'ère d'un nouvel ordre de vie. Le chef du bureau centre des statistiques de Sumatra du Nord, Cheikh Suhaimi Hamedan, a déclaré que le nombre de visites avait atteint 23 597 personnes en juillet 2020, comme rapporté par l'agence de presse Antara, a expliqué Cheikh Suhaimi. Le nombre de touristes étrangers venus au nord de Sumatra avait déjà atteint 184 personnes en juillet 2020. Il y a eu une augmentation des visites par rapport au mois précédent, comme en juin, il y avait 99 touristes étrangers et une personne en mai 2020. BPS a noté que le plus grand nombre de touristes étrangers entrant dans le nord de Sumatra venait toujours de la Malaisie. Cheikh Suhaimi a déclaré que sur 23 597 personnes, le plus grand nombre de touristes étrangers est entré depuis l'aéroport de Kuala Lumpur jusqu'à 20 230 personnes. Pendant ce temps, les autres entreront par le port de Belawan, l'aéroport de Silangit et le port de Tanjung Balai Asahan. Cheikh Suhaimi espère que le nombre de touristes étrangers continuera d'augmenter en phase avec l'ère d'un nouvel ordre de vie. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui intitulé « La Palestine après la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et l'Israël ». La cohésion des États arabes pour soutenir la Palestine est mise à l'épreuve. Après avoir réussi à établir de bonnes relations avec les Émirats arabes unis, l'Israël continuerait à faire des approches avec d'autres pays arabes. À Abu Dhabi, pour la première fois, le drapeau israélien a été hissé lorsque des hauts fonctionnaires des Émirats arabes unis, d'Israël et des États-Unis se sont rencontrés pour la première fois après l'atterrissage inaugural d'un avion israélien à l'aéroport international d'Abu Dhabi. La réunion trilatérale des Émirats arabes unis, d'Israël et des États-Unis à Abu Dhabi fait suite à l'accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël qui a été organisé il y a 2 semaines. La décision d'Abu Dhabi a grandement déçu les Palestiniens, comme le montre le retrait de l'ambassadeur palestinien des Émirats arabes unis. Les Palestiniens regrettent le changement d'attitude des Émirats arabes unis qui ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël le 13 août. Cette action a été considérée comme une trahison par le peuple palestinien. Les remords des Palestiniens pour les Émirats arabes unis peuvent continuer. L'Israël est en train de faire des approches avec d'autres pays arabes. Un responsable israélien a déclaré qu'il était possible que Bahreïn, Oman et le Soudan suivront la politique des Émirats arabes unis. Cela peut devenir une réalité parce que la décision d'Israël est pleinement soutenue par les États-Unis, qui sont leurs principaux alliés. Si cela se produit, alors la lutte du peuple palestinien pour parvenir à un État véritablement souverain deviendra plus difficile. Les étapes diplomatiques doivent être optimisées. Les bonnes relations avec les pays qui le soutiennent doivent être maintenues par la diplomatie et d'autres mesures stratégiques. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la fête de l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. Le Vietnam est le pays le plus à l'est de la péninsule d'Indochine en Asie du Sud-Est. Après une longue période sous la domination royale chinoise, le Vietnam a été colonisé par la France. En 1941, le leader de la révolution vietnamienne, Ho Chi Minh, fonde la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, ou Vietnam Doc Lap Dong Minh, ou Viet Minh. La Ligue était composée des nationalistes vietnamiens et de groupes communistes qui soutenaient l'indépendance vietnamienne. Le Viet Minh s'est battu contre les coloniaux français et japonais qui occupaient alors le Vietnam. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ho a dirigé le Viet Minh dans le contrôle de la guérilla des grandes villes du Vietnam. Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance de la République démocratique du Vietnam et a ensuite été le premier président du pays. Notre information est sur le tremblement de terre au Nicaragua survenu le 2 septembre 1992. Le tremblement de terre au Nicaragua s'est produit sur la côte du Nicaragua le 2 septembre 1992 à 18h16. Selon certaines informations, le tremblement de terre a causé des dégâts au Costa Rica. Au moins 116 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Le tremblement de terre au Nicaragua a provoqué le tsunami qui a tué de nombreuses victimes mortes, y compris des enfants endormis. Plus de 68 personnes sont portées disparues et plus de 13 500 sont sans abri au Nicaragua. À cause du tremblement et du tsunami, au moins 1 300 maisons et 185 bateaux de pêche ont été détruits le long de la côte ouest du Nicaragua. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, le crash du vol 111 de Swiss Air le 2 septembre 1998. Le 2 septembre 1998, le McDonnell Douglas MD-11 effectuant le vol Swiss Air 111 entre New York et Genève s'écrase dans l'océan Atlantique au sud-ouest de Halifax, au Nouvelle-Écosse. À 8 km de la côte, tuant les 229 personnes à bord se composant de 215 passagers et 14 membres d'équipage, ce qui en fait l'accident le plus meurtrier dans MD-11 et de la compagnie Swiss Air. Serge Jeter, c'est l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, pour la brique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre, les ministres de l'économie de l'ASEAN conviennent de renforcer la coopération avec les pays partenaires du dialogue. Le ministre indonésien du Commerce, Agus Parmanto, a de nouveau dirigé la délégation indonésienne à la réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN, AEM, avec les pays partenaires du dialogue. La réunion était la 9e réunion de consultation des ministres de l'économie de l'ASEAN et le Canada, la 25e réunion de consultation AEM Closer Economic Relations, ou CER, la 27e réunion de consultation AEM ANT et la 17e réunion de consultation AEM ROC. Ces réunions clôturent la série de la 52e réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN, ou AEM, et d'autres réunions connexes qui ont eu lieu du 22 au 29 août 2020. Le communiqué du ministère du Commerce de la République d'Indonésie indique qu'à la 9e réunion de consultation AEM Canada, les ministres ont échangé des opinions concernant la mise en œuvre du plan de travail pour la mise en œuvre de la déclaration conjointe ASEAN-Canada sur le commerce et l'investissement au GDTI pour la période 2016-2020 et ont approuvé le plan de travail pour la période 2021-2025. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Agus Parmanto, expliquait que l'ASEAN, en particulier l'Indonésie, apprécie la mise en œuvre du plan de travail de la déclaration conjointe sur le commerce et l'investissement, ou GDTI, entre l'ASEAN et le Canada pour la période de 2016-2020 et accueille favorablement le plan de travail pour la période 2021-2025. Agus Parmanto a déclaré que l'Indonésie avait également invité les ministres de l'économie de l'ASEAN à échanger des idées concernant les recommandations pour la poursuite de la coopération de l'ASEAN et du Canada. Lors de la réunion de consultation AEM Closer Economic Relations, ou CER, les ministres ont pris note des recommandations de la Chambre de commerce Australie-ASEAN, ou AUSCHAM-ASEAN, du Conseil des affaires Australie-ASEAN, AABC, et du Conseil des affaires ASEAN-Nouvelle-Zélande, ANZBC. La recommandation est liée à une perspective commerciale dans le commerce et l'investissement au milieu de l'impact de la pandémie de COVID-19 dans le cadre de l'ASEAN-CER. Lors de la réunion de consultation AEM-ANT, les ministres ont eu un dialogue avec le Conseil des affaires ASEAN-ANT, AIBC, discutant des activités, des problèmes et des recommandations de l'AIBC tant du côté de l'ASEAN que du côté indien en 2020 au milieu de cette pandémie. Outre le report de l'achèvement de la ratification de l'accord ASEAN-ANT sur l'investissement par le Cambodge, les ministres se sont concentrés sur la discussion de l'examen de l'accord sur le commerce des marchandises ASEAN-ANT qui sera effectué après la signature des négociations de partenariat économique global régional RCEP. La dernière réunion de consultation a eu lieu avec la Corée du Sud. Au cours de la réunion, les deux parties ont approuvé les initiatives ministérielles conjointes visant à renforcer la connectivité économique entre l'ASEAN ROC en réponse à l'épidémie de COVID-19. Le document contient un engagement commun à maintenir l'ouverture du marché et à établir des mesures pour restaurer les conditions économiques dans la région. Le ministre Agus Parmanto a expliqué que les diverses initiatives lancées entre l'ASEAN et la Corée devraient encourager les efforts de relance économique dans la région pendant cette pandémie. C'était Mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Makin dalamku jatuh kepadamu.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au magazine culturel. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître une ville touristique, à savoir Yogyakarta. Yogyakarta est la capitale de la région spéciale de Yogyakarta en Indonésie. La ville de Yogyakarta où vivent le sultan Hamengkubuwono et le grand duc Pakualam est l'une des plus grandes villes d'Indonésie. La ville est autrefois la capitale d'Indonésie en 1946. Le nom de Yogyakarta est tiré de deux mots, à savoir Ayogya ou Ayodhya, qui signifie tranquillité, et Karta, qui signifie bon. La ville est également connue comme ville étudiante, car 20% de sa population est étudiante et il y a 137 collèges. La ville de Yogyakarta est très stratégique car elle est située sur les lignes principales à savoir la chaussée sud qui relie Yogyakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya et d'autres villes du sud de Jawa. Est également la route de Yogyakarta-Semarang qui relie Yogyakarta-Magelang-Semarang. Ainsi, le transport à Yogyakarta est tout à fait adéquat pour faciliter la mobilité entre les villes. La ville de Yogyakarta est située dans la vallée des trois rivières, à savoir la rivière Winongo, la rivière Chode qui divise la ville en deux parties, ainsi que la rivière Gajah Wong. Bien qu'elle soit située dans une vallée, la ville subit rarement des inondations, car elle a un bon drainage qui a été construit par le gouvernement colonial néerlandais et aussi l'ajout de drainage qui a été fourni par le gouvernement provincial de Yogyakarta. Thank you. dans des quartiers de Yogyakarta, à savoir Kota Gede était autrefois le centre du sultanat de Mataram de 1575 à 1640. Les palais qui fonctionnent toujours bien sont le palais à Yogyakarta et Puro Paku Alaman, faisant partie du sultanat de Mataram. Yogyakarta est également devenu le lieu de création de la plus grande organisation islamique Muhammadiyah, créée par Kiai Haji Ahmad Dahlan Akauman Upasan Gondomanan Yogyakarta en 1912. Jusqu'à présent, le conseil central de Muhammadiyah est toujours à Yogyakarta. Yogyakarta est une ville chargée d'histoire qui est toujours bien gérée. La ville est toujours riche de la culture et de la tradition javanaise. Par conséquent, de nombreux touristes nationaux et étrangers sont intéressés à visiter cette ville. Sergery Talk et Sergery Tech, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Yogyakarta ». Demain, nous nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa lama waktu pinjamnya? Berapa lama waktu pinjamnya? En français, quelle est la durée de la période d'emprunt? Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Berapa lama waktu pinjamnya? Berapa lama waktu pinjamnya? En français, quelle est la durée de la période d'emprunt? La situation est que Kevin emprunte des livres à la bibliothèque universitaire. Bonne écoute.
Berapa lama waktu pinjam buku ini?
Paling lama satu minggu.
Baik.
Ini bukunya. Jika telat mengembalikan, kena denda.
Baik, Pak. Terima kasih.
Sama-sama.
Cher ami, après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Berapa lama waktu pinjamnya? Berapa lama waktu pinjamnya? Quelle est la durée de la période d'emprunt? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et puis, vous pouvez me répéter. Berapa lama waktu pinjam buku ini? Berapa lama waktu pinjam buku ini? Quelle est la durée de la période d'emprunt de ce livre? Paling lama satu minggu. Paling lama satu minggu. Une semaine au maximum. Maksimal. Maksimal. Maksimum. Pinjam. Pinjam. En français, emprunt. Satu minggu. Satu minggu. En français, une semaine. Denda. Denda. Amende. Cher ami, quand quelqu'un emprunt quelque chose, il faut lui donner une date limite pour l'emprunter. Si quelqu'un vous emprunt quelque chose, n'oubliez pas de lui demander ou de lui dire « Berapa lama kamu mau pinjam ?»« Berapa lama kamu mau pinjam ?» Combien de temps voulez-vous emprunter ? Pour répondre à la question « Berapa lama ?»« Berapa lama ?»« Combien de temps ?» Nous pouvons répondre par « Hari ?»« Hari ?»« Séjour ?»« Minggu ?» Minggu, semaine. Ou bulan, bulan, mois. Si vous souhaitez que l'article soit retourné immédiatement, vous pouvez dire utiliser le mot nanti, nanti, en français ce ou cette, indiquant un temps précis. Par exemple, maximal pinjam buku ini dua hari. Maximal pinjam buku ini dua hari. La durée maximale d'emprunt de ce livre est de 2 jours. Motor ini harus kembali nanti malam. Motor ini harus kembali nanti malam. Cette moto devra revenir ce soir. En plus d'utiliser l'expression berapa lama, berapa lama, berapa lama, combien de temps, vous pouvez également utiliser le mot kapan. Kapan. En français, quand. Par exemple, Kevin, kapan aku harus mengembalikan buku ini? Kapan aku harus mengembalikan buku ini? En français, quand dois-je retourner ce livre? Satu minggu. Satu minggu. Petugas, satu minggu ya. Satu minggu ya. Une semaine. Chers amis, avant de terminer Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Berapa lama waktu pinjam buku ini?
Paling lama satu minggu.
Baik.
Ini bukunya. Jika telat mengembalikan, kena denda.
Baik, Pak. Terima kasih.
Sama-sama.
Chers amis, voilà la mission d'Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci beaucoup de votre attention et votre fidélité avec nous. Et au revoir.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Vous êtes avec moi, Audrey. Et cette fois, vous allez écouter une chanson du Kalimantan Central intitulée Mamangun Mahagaleu. Chers auditeurs, Mamangun Mahagaleu signifie un bâtiment gardant la zone. Cette chanson a été créée par Bobby Tarung. Les paroles contiennent une invitation à la communauté pour développer et protéger la zone. Par conséquent, le bien-être augmente lorsque la région est avancée. Cependant, lors du développement de la zone, la nature doit être correctement entretenue. Mon cher Jolitar, voici la chanson Mamangun Mahagaleu, chantée par Nelvira. Bonne écoute.
Mama, 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 mama
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.